bienvenue à chacune et à chacun pour notre dernière soirée, notre dernière conférence de ce cycle pour le bicentenaire qu'on avait initié déjà au mois d'octobre passé, cinquième et dernière, mais pas la moindre. Nous accueillons avec joie le professeur Dr Philippe Van Mabé qui nous vient de Bruxelles, qui passe par Liège avant de s'envoler vers les Ardennes.
Exactement.
Voilà. Et qui nous fait la joie de faire une pause dans notre église. Alors, tout le monde le connaît au moins de nom, neuropsychiatre, analyste, spécialiste de l'adolescence. Il a fondé le CTHA, les initiales du Centre Thérapeutique pour Adolescents à Oulué.
Où on s'est connus.
Comment ?
Où on s'est connus.
Où nous nous sommes rencontrés, puisqu'il a été mon boss pendant un an et demi. Voilà. Et donc, pour nous parler de ce thème hautement d'actualité, les jeunes en quête d'identité, d'idéal, pardon, en quête d'idéal, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai un ami qui parlait la semaine passée, il a mon âge et il est professeur en cinquième secondaire ici dans une école de Liège dont je tairai le nom, et il disait qu'il avait face à lui dans la même classe deux élèves qui étaient suivis par la police à l'insu de tout le monde, parce qu'ils étaient susceptibles de partir en série, et à côté, sur le même banc, d'autres qui étaient volontaires pour Amnesty International, d'autres qui se préparaient pour faire du volontariat, etc. Ces jeunes en quête d'idéal, alors pour le meilleur ou pour le pire? Merci.
Merci. Merci beaucoup, Xavier. Je vais introduire mon exposé en partant de de deux choses. Donc, les thématiques majeures de la campagne de séduction de Daesh. Je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais ça vaut déjà le détour parce que c'est fait par des gens très compétents. Il y a un ministère de la communication, je dirais en Syrie, avec des gens très compétents, donc très formés et des gros moyens, et qui évidemment construit des sites de séduction, donc vraiment avec des images ralenties d'explosions, avec des images héroïques de jeunes, avec des kalachnikovs à la main, avec des images paradisiaques de plages. Et alors, il y a évidemment des phrases clés construites pour attirer les jeunes en quête idéal. Je vais commencer par ça, et puis je vais après ça essayer de vous exposer, enfin, voir avec vous, comment est-ce qu'on peut repenser la phrase légendaire attribuée à Malraux, je ne sais pas, vous voyez qu'on voit dans l'émission Nom de Dieu, le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Oui, cette phrase étrange qu'on lui a attribuée et que lui a toujours niée, mais il en a dit deux autres que je vais vous évoquer, qui sont encore plus parlantes pour comprendre ce qui passe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on assiste vraiment à un retour du religieux sous des formes inquiétantes. Et puis après ça, on fera le parcours de l'adolescence en vous montrant pourquoi est-ce que la question donc, du religieux ou de la conviction ou du croire est clairement au cœur de l'adolescence, contrairement à ce qu'on avait pensé durant maintenant au moins 20 ou 30 ans. On pensait l'adolescence à l'abri de l'envie de croire, comme les adultes, en ayant marre des croyances qui avaient mené au pire durant 100 ans. Donc, les formules de Daesh, on va commencer par ça. Donc, ils disent, donc je vais en prendre trois thèmes, mais il y en a beaucoup plus, mais ce sont des thèmes vraiment récurrents. Donc, sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une juste cause. Vous entendez, sacrifice, hein, donc qui est vraiment un signifiant majeur donc, pour la quête idéale. Parce que si vous avez lu Luc Ferry, disait toujours l'idée du sacré, ou l'idée donc, de plus grand que soi, de ce qui serait sacré pour soi, c'est en effet ce pourquoi on serait prêt à se sacrifier. Et, donc, et Luc Ferry, c'est quand même aussi un agnostique bien connu. Le deuxième thème, c'est plus les filles qui sont ciblées, c'est viens fonder une famille avec un de nos héros. Viens fonder une famille. Oui, donc ces gamines partent à 15 ans, toute origine sociale confondue, donc c'est pas du tout uniquement des jeunes musulmans mal intégrés, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, parce qu'évidemment, il faut savoir quand même que le jeune djihadiste n'a plus rien à voir avec les frères Kouachi, Koulibaly, Mohamed Merah, avec, vous voyez, Medine Mouche. Eux, c'est la vieille génération. Eux, ce sont les kamikazes d'après 2001. Donc on a maintenant un phénomène contemporain qui n'est plus le kamikaze, qui est le djihadiste. Donc, il ne faut pas confondre les deux, même si l'un influence l'autre, bien évidemment. Donc, viens fonder une famille avec un de nos héros. Donc, ces gamines se font draguer sur des sites par des garçons qui parlent leur langue, qui apparaissent en effet comme héroïques et qui en effet se confient à elles, à l'insu des parents, qui ne se rendent compte absolument de rien, qui leur proposent en effet de les rejoindre via la Turquie à Mossoul, en Syrie, pour les épouser, alors parfois pour leur faire un enfant. Et ces gamines, qui sont évidemment très fascinées par ces garçons héroïques avec des Kalachnikov, qui sont en effet des nouveaux mythes contemporains de l'héroïsme, se font en effet solidement manipuler et séduire et partent. Il y a une Française à laquelle j'étais mariée 5 ou 6 fois. Et du coup, ces jeunes djihadistes n'attendent pas d'être martyrs pour avoir des vierges dans leur lit. Donc ça, c'est quand même un des avantages de Daesh. Vous me suivez, hein, donc. Troisième phrase, qui plaît beaucoup aux filles aussi, c'est « Rejoins-nous et viens aider les enfants syriens ». Donc on les interroge et disent « Quand je vois tous ces enfants qui sont en effet victimes de la guerre, je pourrais, moi, soigner mon héros de mari et élever les enfants ». Et puis enfin, le troisième thème, c'est celui de la vérité. « Tu vis dans un monde de mécréants, impurs ». C'est un concept étrange, hein, je dirais qu'on pensait chez nous aussi complètement révolu, l'idée de la pureté. Et l'explication est « La vérité est ici ». Donc vous avez là trois thèmes majeurs. Alors, on investit beaucoup de moyens pour contrer. Donc on tâche de demander à des gens qui font de la communication de faire des slogans comparables qui pourraient vraiment nier. Oui, exemple, à côté de « Sacrifie-toi à nos côtés, tu défends une juste cause », c'est « Non, en vérité, tu vas découvrir l'enfer sur terre et tu mourras seul loin de chez toi ». Ça n'a aucun effet. Et donc c'est la naïveté de nos spécialistes, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis là, vous voyez, sur cette espèce de contre, je dirais, propagande, c'est de penser que la réponse critique, qui est symétrique au slogan séducteur, va contrer l'effet irrésistible du slogan vraiment qui tape juste sur un appel, sur un mouvement éminemment juvénile. Et curieusement, les autorités ont du mal à comprendre cela. Vous voyez, donc on tâche de réfléchir à former les imams, à faire attention aux prisons, parce qu'il y a toute série de profils. Donc on est plus à l'aise avec le profil de l'autre. C'est plus embêtant de penser qu'un de nos enfants, dans un milieu conventionnel, mettons de culture chrétienne, partirait sans crier gare. Il y en a beaucoup, hein, parce que vous avez aussi des rebelles qui sont des jeunes universitaires, et pas nécessairement musulmans, mais qui se convertissent. Vous allez me dire, le mot « conversion » commence mal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand même. En tout cas, ils se convertissent, ce qu'on peut faire en un temps record. Mais le problème, c'est qu'après ça, la marche arrière est impossible. Si vous vous retirez de votre conversion musulmane, vous devenez un apostat, et vous êtes vraiment en danger de mort. Et vous voyez quand même des jeunes intellectuels, ceux-là font leurs armes, dans l'armée de Daesh, parce qu'on dit, vous savez, on dit 450 Belges, on disait ça il y a un an, maintenant plus personne ne cite de chiffres, mais on sait quand même que l'armée de Daesh, il y a au moins entre 10 et 15 000 jeunes non-syriens, donc quand même impressionnant, hein, vous voyez, qui sont... fanatiquement engagés, donc vraiment, parce que pour eux, en effet, la peur de mourir a été complètement sublimée par l'héroïsme associé à l'idée de la mort. Donc c'est quand même. J'avais oublié de vous demander de ne rallumer votre portable qu'après l'exposé, comme on fait toujours dans les cours. Donc il y a vraiment un phénomène très impressionnant qui est en effet que des jeunes non pas repérables, vraiment, parce que, vous voyez, on tâche d'être à la vue. Parce que ce n'est pas des jeunes qui sont dans des milieux tout à fait intégrés, ou qui sont formés intellectuellement, donc qui ont parfois même un statut social. Vous voyez quand même que Koulibaly s'était complètement intégré, donc il était même passé une mission avec Sarkozy vantant la réussite d'un jeune sorti de prison qui s'était marié, qui avait un job stable. Donc on a très peu de critères pour pouvoir repérer, en effet, le jeune ou l'ado qui ne va pas résister à cet appel. Donc ça, c'est pour introduire. Deuxième introduction, c'est donc cette phrase légendaire. Vous allez voir qu'elle est intéressante quand on fait l'effort de la relire dans son contexte précis. Vous voyez donc, vous voyez l'émission de Batchen, Au nom de Dieu, ça vous avez peut-être dû voir parce qu'elle existe depuis 30 ans, qui commence toujours par cette phrase attribuée à Malraux. Maintenant, Batchen l'a un peu nuancée, mais la phrase initiale, en tout cas, Frognard prétend qu'il a dit, mais Malraux longtemps a dit, c'est pas une phrase de moi, le 21e siècle, donc, oui, sera religieux ou ne sera pas. Donc, en fait, ce qu'il a dit, j'ai recherché vraiment avec l'aide de mes fils qui sont beaucoup plus branchés sur les techniques contemporaines de retrouvailles, de références. Il a dit ceci. Donc, le problème capital de la fin de siècle. Donc, il a dit ça. Donc, il a parlé deux fois. Il a parlé en 45. Je vous rappelle que demain, en fait, la fin de la guerre, hein, le 8 mai, donc il y a 70 ans, la guerre finissait. Donc, peu de temps après, Malraux, qui est bon, très très proche de De Gaulle, dit « Le problème capital de la fin de siècle, donc de la fin du XXe siècle, sera le problème religieux, sous une forme différente de celle que nous connaissons et que fut le christianisme par rapport aux religions antiques. » Ça, c'est une phrase européenne qu'il a dit. Et puis, un peu plus tard, il se fait interroger 10 ans plus tard, à cause de cette intervention-là, il dit quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. « Depuis 50 ans, la psychologie réintègre les démons dans l'homme. » Les démons. Alors, il précise, tel est le bilan sérieux de la psychanalyse, qui est vraiment la pratique principale. Donc, réintégrer les démons dans l'homme. Et puis, il ajoute, je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qui connaît l'humanité, Hiroshima, Nagasaki, va être d'y réintroduire les dieux. Et c'est un homme agnostique. Donc, il n'est pas du tout dans une nostalgie d'un retour aux grandes religions monothéistes du monde. Lui, clairement, il pense les dieux, on va l'interroger, en fait, comme des torches allumées une à une par l'homme pour éclairer la voie qu'il arrache à la bête. Donc il pense que les dieux ont une fonction humanisante pour les hommes. Et lui, évidemment, il n'espère pas du tout un retour nostalgique à un monde chrétien qui n'était déjà plus. Enfin, non, je dis qu'en 1955, on est un peu avant Vatican II, mais les églises se vident. Le monde rentre dans un scepticisme parce qu'il a vu l'horreur des croyances, la foi dans le fascisme, la foi dans le stalinisme. On a eu quand même 10 millions de morts en 14-18 et puis 50 millions, 60 millions en 40-45. Hein, donc, quand même, et la plupart avaient entre 18 ans et 25 ans. Je ne sais pas si c'est pas très loin quand même, mais morts quand même pour des guerres civiles européennes, quand même. C'était un peu effrayant. Mais au nom de croyances absolues, comme ça. Donc évidemment, on n'avait plus envie de croire en rien. Donc on est devenu profondément sceptique, athée, agnostique, et les églises se sont vidées. On n'a pas du tout imaginé, vous imaginez bien, on n'a pas du tout pensé qu'il y aurait un 11 septembre en 2001. Donc ça, c'était quand même hautement improbable. Et puis que depuis lors, on aurait quasi tous les soirs un kamikaze, en tout cas maintenant durant 10 ans, et puis maintenant, on a des djihadistes. Et on est dans une guerre de religion probablement mondialisée, dont on ne voit que le point de départ, mais qui va être complètement inarrêtable, bien évidemment. Donc il y a lieu quand même d'y réfléchir. Alors, moi j'aimais bien l'idée, donc les démons, nous les psychanalystes, avec l'inconscient, la pulsion de mort, la sexualité humaine, on avait ramené en effet la part d'ombre de l'humain comme une question qui faisait partie. D'ailleurs, l'Église n'a pas beaucoup aimé les psychanalystes, elle a beaucoup résisté. Il y a à peine 15 ans que les Vatican pensent qu'en effet les sciences humaines et la psychanalyse pourraient apporter un éclairage nouveau à l'héritage chrétien. Ils sont un peu en retard, parce qu'on aurait pu, comme on a commencé beaucoup plus tôt, ça aurait pu un petit peu dépoussiérer en tout cas le catéchisme. Mais donc, bref, l'idée que les démons sont là, mais maintenant les dieux reviennent. Et donc on doit s'intéresser à la question des dieux. Ou la question de Dieu, qui est une question éminemment inconsciente. Donc il ne faut pas avoir fait 50 analyses pour savoir qu'il n'y a pas d'inconscient humain. Donc, vous voyez, l'appareil à penser dans sa partie refoulement, dans laquelle la question de Dieu n'est pas présente. Et donc, celui qui se dit agnostique, celui qui se dit athée, celui qui est sceptique, n'a pas néanmoins, dans l'arrière-plan de sa vie psychique, une question autour de Dieu. Alors, évidemment, c'est pas. C'est quel Dieu ? C'est évidemment une image magnifiée des fonctions parentales. Donc, c'est clairement Dieu le Père Tout-Puissant, par exemple, ou la Sainte Vierge Marie, donc une mère vierge, vierge, c'est quand même un peu le rêve de tous les anges édipiens du monde. Donc on a un héritage, quand même des images qui peuvent suppléer les déficiences parentales. Donc évidemment, tout le monde est un peu déçu, surtout quand on a l'adolescent du père et de la mère qu'on a. Si on peut penser que derrière eux, il y a un Dieu, le Père Tout-Puissant, ou bien une mère de Dieu qui serait vierge et qui serait sainte, c'est évidemment une chose qui est à peu près... Enfin, qui est assez irrésistible, enfin, c'est certainement pas du tout ce que me semble en effet le plus intéressant dans la recherche spirituelle, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et donc, il y a chez tous les humains, et vous allez voir alors comment les moments dans la vie où c'est le plus présent, où l'envie de croire est présente, enfin, est agissante dans l'appareil psychique. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai cru très longtemps, depuis très très peu de temps, que j'ai essayé de comprendre d'où venait, de manière ontologique, l'envie de croire. Parce que quand on est intelligent, on se dit, mais croire à quoi bon ? Mais comment vivre sans croire ? Oui, donc sans croire en rien. Donc, comment construire sa vie sans aucune conviction ? Ça commence aussi mal, hein, conviction. Donc, vraiment, c'est-à-dire sans des certitudes qui peuvent être ébranlées, mais quand même qui sont identifiantes et qui sont des balises pour penser sa vie. Si on ne croit en rien, comment voulez-vous croire en soi ? Ou comment voulez-vous croire en l'autre ? Quelqu'un qui est le mouvement même du mouvement amoureux, qui s'initie à l'adolescence. Le jeune qui ne croit d'aucune manière en lui. Hein. Comment voulez-vous qu'il séduise quelqu'un d'autre à qui il aura envie de faire croire qu'il croit en elle ou en lui ? Parce qu'il y a évidemment, dans le mouvement de séduction, une construction identitaire qui est de la plus grande importance. Alors vous allez dire, ça n'a rien à voir avec du religieux. Pourquoi est-ce que les gens qui s'aiment ont toujours tellement envie et besoin de sacraliser leur union ? Vous avez vu tout le débat sur le mariage homosexuel en France, enfin, mais chez nous aussi. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais j'ai quand même aidé beaucoup de jeunes qui avaient des devenus homosexuels. Pourquoi, à un moment donné, ils voulaient se marier eux aussi ? Parce que, bien évidemment, dans leur volonté, dans la particularité de leur destin amoureux, ils ont besoin, eux aussi, un jour, de sacraliser, oui, leur engagement amoureux. Que eux. Donc, les églises qui sont vides sont utilisées pour les funérailles et pour les mariages. Les gens préfèrent une église plutôt que la mairie, quand même vraiment pour ces grands moments de la vie, donc les moments du mariage, de l'engagement amoureux, même s'ils ne sont pas croyants. Comme si, en effet, il y avait là un sacrement, il fallait convoquer la société, et peut-être éventuellement une idée de plus grand que soi, pour anoblir ou pour symboliser dans une alliance un mouvement amoureux. Donc il y a chez l'humain, vous voyez, un besoin de croire qui est vraiment ontologique et qui est très compliqué à expliquer et dont on voit bien qu'il est extrêmement difficile de faire l'économie. Alors, en travaillant mes références fondamentales, j'ai essayé de me dire à quel moment ça agit durant l'adolescence. Alors vous allez voir, ça m'est venu tout récemment en écoutant Michel Serres, que j'adore, vous voyez, donc le philosophe français qui a je ne sais plus quel âge, enfin, il doit avoir à peu près 90 ans, mais il n'a pas pris une ride intellectuelle, il est très ridé, mais il a une diversité d'esprit vraiment impressionnante. Donc, Michel Serres est venu parler à Bruxelles sur une conférence qui tournait autour de la philosophie de l'histoire. Donc il expliquait, c'est un bon entendant, il a vu le siècle qu'on a quitté, hein, donc il est né avant 40-45, donc il a raconté des souvenirs de 14-18 que ses parents lui racontaient, il a vu toute la guerre 40-45, il a vu l'arrivée de la modernité, donc il a vu quand même le monde se transformer. Et puis maintenant, il est expert sur les nouvelles technologies, et il parle du pouce et de la poussette, enfin, donc il a fait des choses très intéressantes. Donc, et bien il dit ceci, on doit faire, de toute urgence, c'est une priorité absolue intellectuelle, une philosophie de l'histoire. Parce qu'il dit, l'histoire doit être pensée, sans quoi elle se répète à l'infini, et on ne comprend pas le monde dans lequel on baigne. Alors, il prend pas les grands philosophes de l'histoire classiques que tout le monde connaît assez bien, il prend, alors lui qui est aussi un agnostique profond, il prend Joachim de Flore, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un moine cistercien du XIIe siècle. On est à l'époque des croisades, c'est Joachim de Flore, donc moine cistercien, avait écrit un traité de philosophie de l'histoire dans lequel il fait, comme tous les autres après, une façon de décrire l'histoire en trois temps. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que vous allez voir, l'adolescence, c'est aussi trois temps qui se succèdent. Et il montre que l'histoire du monde, au XIIe siècle, mais on le retrouve aussi chez tous les historiens ultérieurs, donc imaginez-vous, donc, un moine cistercien, il prend le temps du père, premier temps, le temps du fils, deuxième temps, le troisième temps, le temps de l'esprit. Moi, j'ai trouvé ça génial. D'abord, parce qu'on a la Trinité à laquelle moi je tiens particulièrement, et on a des métaphores formidablement puissantes pour comprendre l'adolescence. Et pour comprendre dans l'adolescence la fonction et les besoins de croire. Vous accrochez vos ceintures, alors on démarre. Le temps du Père. Alors, le temps du Père, c'est la première adolescence. Il y en a qui, ils entrent là-dedans, ils n'entrent jamais. Donc, c'est c'est compliqué de la quitter. C'est un temps majeur, puisque c'est ce moment où l'enfant, du jour au lendemain, lui arrive un événement incontournable qui est le phénomène pubertaire. Son corps, brusquement, son corps d'enfant, devient capable de donner la vie. C'est ça. C'est pas un phénomène endocrinien, c'est endocrinien aussi, mais c'est surtout un événement majeur dans une construction humaine qu'arrive dans un corps d'enfant ce pouvoir fabuleux qui est le pouvoir de donner la vie. Évidemment, ça entraîne une mutation, une métamorphose obligatoire. Quand même. Donc, il y a un avant, un après. Comment on fait après, quand l'enfant vit dans son corps ce pouvoir nouveau? Donc, c'est l'entrée dans le temps du père. Dans les cultures classiques, toutes dans le monde entier, on a fait des repérages anthropologiques au moment où le monde s'est mondialisé, donc à partir de 1920-1930, Margaret Mead, vous voyez des gens comme ça vraiment. À l'époque, on trouvait encore des parties du monde inconnues, hein, je ne sais pas si vous, c'est quand même il y a moins de 100 ans, donc il y avait encore en Amazonie, des tribus non touchées par la modernité, hein, donc qui vraiment vivaient avec des références symboliques complètement temporelles, qui pouvaient avoir 5 ou 10 000 ans. C'était archi intéressant. On les appelait les barbares, ils n'étaient pas barbares du tout, ils étaient très sophistiqués. Parce que dans toutes ces cultures du monde, on retrouvait toujours une gestion de l'avènement pubertaire des enfants. Toujours. Comme si tous les humains, depuis qu'on a des traces de la façon dont ils éduquent leurs enfants, repèrent trois temps majeurs dans la vie, la naissance, l'adolescence par cet événement-là et la mort. Et ce moment pubertaire, évidemment, est organisé. Avec, en général, on repère avec plein de modalités qu'on peut décrire à l'infini, mais formidablement riches, parce qu'évidemment, vous avez une invention humaine sans limite, avec quand même, chez ces gens quand même, qui ont laissé intacte quand même une vieille tradition qui pouvait avoir 1000 ou 2000 ans, de façon quand même de comprendre les questions juvéniles. Vraiment, nous, on a tout oublié, hein, on ne fait plus rien pour les jeunes, ils sont pubères, et puis c'est tout, basta. Donc, on faisait quoi? On séparait évidemment les filles et les garçons. Élémentaire. Chez nous, on les met tout le temps ensemble. Ils ne sont pas bien à 12-13 ans ensemble. Ils sont tellement différents. Donc, il y a un inconfort majeur dans la mixité obligatoire. Mais on a pensé que c'était un progrès, donc on le maintient. Immense connerie. C'est vrai, c'est comme ça, c'est inarrêtable. Donc, on les séparait et on les enlevait aux familles d'origine pour un temps initiatique où les sages de la tribu, reconnus pour leurs compétences, vous voyez, pour leur expérience, initiaient. Les filles et les garçons, de manière très différenciée, avec des rites, des mythes, des explications, des expériences, des aventures, des moments où on affronte sa peur, où on se marre dans son corps, où on vit des régressions toxicomaniaques ou transgressives, ou gentiment perverses, ou homosexuelles, avec des... Oui, donc des tas de choses, c'était très, très varié, c'était extrêmement intelligent, parce qu'évidemment, ça permettait à ces filles et ces garçons de faire un travail de croissance et d'inspiration de ceux qui précèdent sur comment on devient un homme et une femme, et fort de leur réussite dans un troisième temps, donc ouais, le temps, on les séparait, le temps où on était initié, on était agréé dans sa compétence nouvelle, qui était de devenir un homme ou une femme, capable de procréer dans un contexte, je dirais, symbolisé, humanisé, civilisé. C'est quand même assez intéressant. Chez nous, tout ça a complètement disparu. Totalement disparu. Quelle initiation, quel mythe, quel rituel, quel passage, quelle organisation de pensée. Donc il y a un vide absolu sur ce que les humains ont toujours su qui était si important. Alors, dans le temps du Père, donc, qui est le premier moment, c'est le moment où, en effet, l'envie de croire se réveille de manière majeure. Je pense qu'elle existe chez le tout petit de l'homme. Je pense que le petit de l'homme a, s'il a la chance d'avoir à côté de sa mère, qui en effet, je pense, maintient un lien fusionnel après la naissance, parce que l'enfant reste quand même dans une bulle mère-enfant, s'il y a la chance qu'il y ait un père à côté de la mère, vraiment, qui prend sa place, et maintenant les nouveaux pères s'investissent beaucoup plus que leur propre père à eux et que leur propre grand-père, le père qui est présent représente pour cet enfant-là déjà une tiercité, autre chose que la bulle duelle et, je dirais, comment dirais-je, un peu de faisant qu'une de la mère et de l'enfant. Le père représente un tiers, il est le père de l'enfant, il est l'amant de la mère, il est quelqu'un qui en effet l'inscrit dans une tradition. Enfin, l'enfant porte son nom, maintenant on pense que l'enfant peut choisir ou la mère peut choisir, je pense que ce n'est pas une très bonne idée, mais en tout cas, son rôle est un rôle qui, d'entrée de jeu, permet à ce tout petit homme d'entrer dans un monde dans lequel il va pouvoir croire que ce monde est un monde bienveillant ou sécurisant, dans lequel on peut l'aider petit à petit à grandir, et apprend petit à petit avec sa mère un ajustement en traversant les stades psychogénétiques qu'on connaît bien, donc l'oralité, l'analité, l'Oedipe. Bon, c'est archi important, parce que c'est ce qui va se passer là, si ça se passe bien, va équiper l'adolescent tout autrement pour que celui pour qui ça se passe mal. Oui, donc, sur les frères Kouachi, sur Koulibaly, sur maintenant les gens qui connaissent notre histoire voient bien qu'ils ont eu des débuts de vie catastrophiques, évidemment. C'est clair, ça s'est mal passé pour eux, vraiment. Donc il y a eu l'enfant qui naît dans une famille éclatée, avec de la violence, avec une crise dans le couple, il naît dans un contexte où, en effet, l'angoisse est là. Et donc, et dans la peur, il n'y a pas d'entrée de jeu, une graine qu'il va pouvoir gémir, qui est l'envie de croire qu'il est en sécurité, qu'on le protège. Donc ça, c'est initial. Et puis dans l'adolescence, cela revient massivement, parce que le corps pubère de l'adolescent le chamboule tellement qu'il va revisiter tous les stades de la petite enfance dans un total désordre. Évidemment, c'est un âge pulsionnant, déréglé, vraiment chaotique, vous voyez, je dirais, un peu barbare, vraiment, on dit un peu l'âge bête. C'est pas du tout un âge bête, c'est un âge où tout va dans tous les sens, parce qu'évidemment, ce qui arrive dans le corps se passe dans la tête. La tête doit suivre. Et la tête, évidemment, doit commencer à penser cet événement pubertaire. Donc, et les pulsions qui l'animent, donc pulsions orales, anales, rapports de violence, différences sexuelles, peur d'être trop proche du père ou de la mère, le besoin d'aller désirer ailleurs. Ça se passe dans la première adolescence. Et le devoir de ce moment-là, donc c'est entre 12 ans et 15 ans, c'est évidemment de pouvoir essayer de prendre distance du danger incestuel qu'est une famille trop fermée, trop unie, avec peut-être trop de mères et trop souvent pas assez de pères. C'est quand même le cas, hélas, de beaucoup de familles éclatées. C'est quand même malgré tout que les mères gardent majoritairement la garde des enfants, et qu'évidemment, à l'adolescence, ça pose beaucoup de problèmes, et que les pères, souvent un peu lâchement, se taillent ou refont une famille à côté. Et donc, il y a trop de mères et pas assez de pères, en général, dans ce moment-là. Et dans les images identitaires de leur éducation, les pères sont de plus en plus absents. Oui. La plupart des pédiatres sont des femmes, la plupart des profs sont des femmes, la plupart des fonctions éducatives des juges de la jeunesse sont des femmes. Donc il y a beaucoup de femmes. Donc il n'y a plus beaucoup d'hommes qui assurent une fonction éducative, et tu sais si c'est nécessaire, pour les filles et pour les garçons. Vous voyez, vous allez dans les collèges en premier, deuxième, troisième, les hommes sont peu nombreux, à part les profs de gym. Pour les garçons. Donc, parce qu'évidemment, s'il y a un prof de gym, homme, ramasse une fille qui tombe du pli, il se tape une plainte pour attouchement sexuel. Donc il y a vraiment une espèce de voie d'inquiétude depuis les affaires que l'on sait. Donc il y a vraiment un vrai problème de la place de l'homme et donc du père dans ce premier temps d'adolescence. Et là, vous voyez bien que l'adolescent est dans un mouvement d'appel au père. Il cherche une fonction qui le sépare de trop de mères, qu'il est allé désirer ailleurs, qui l'encourage à grandir. Parfois, les mères préfèrent que les enfants restent un peu petits, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Autant ils sont charmants à 11, 12 ans, autant ils deviennent insupportables à 13, 14, 15 ans, les filles et les garçons d'ailleurs. Donc, évidemment, le père, à ce moment-là, il est grand temps qu'il soit présent, en fait, qu'il mette un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. S'il n'est pas là, alors il se cherche des pères de remplacement. Il les trouve où, ça? Où? Sur Internet. Vous voyez, le recruteur. Le recruteur, c'est pas une recruteuse, hein. Ce sont des recruteurs. Donc, ce sont des hommes qui sont à ces places-là, pour les filles et pour les garçons. Tu es l'élu de Allah, c'est toi qui l'as choisi. Tu es de toute ta classe la plus sensible et la plus fragile. Je connais ta sensibilité. Moi, je vais. Elles disent j'ai enfin quelqu'un qui m'écoute, qui me parle et qui me comprend. Vous vous rendez compte que c'est important, vraiment. Donc, et ils n'ont pas tous fait 55 ans de psycho. Hein. C'est vraiment. C'est pas très compliqué d'être à cette place-là. Donc, la place, c'est évidemment. Le pervers est là aussi. Le pervers. Hein, il est là. Il est assez. Hein, vous voyez bien, je dirais, toute la problématique de la pédophilie, vous voyez, enfin, l'Église a été très très secouée, hein, donc depuis André Gide, on sait parfaitement bien que le prêtre pédophile est un ancien enfant de cœur séduit, mais pas de 8 ans, un enfant de cœur qui a 12-13 ans. On dit toujours, oui, et ça, curieusement, personne n'ose dire ouvertement, parce que déjà Saint-Augustin mettait en garde, au 4e siècle après Jésus-Christ, la séduction des éphèbes. En disant, méfiez-vous des femmes et des éphèbes. Parce qu'évidemment, l'éphèbe séduit qui devient après ça, mettons, religieux, il s'est bloqué dans ce moment où celui qui l'a fasciné, hein, qui connaît sa psychologie en quête de modèle et qui lui donne une place d'élu, lui donne un sentiment d'importance, parce qu'évidemment, le locuteur ou le pervers choisit évidemment l'adolescent perméable, enfin, qui est plus fragile, qui est peut-être moins équipé, qui est peut-être moins éduqué, qui a moins eu de chance que les autres, peut-être bien, qui est un peu plus en quête de cette place paternelle, mais qui n'est pas du tout paternelle, hein, qui est une place abusive, qui est une place, une mauvaise place de père, qui est un père fascinant ou séduisant ou séducteur. Donc ça, c'est le premier temps. Donc, alors évidemment, cet âge-là est crucial. Et je pense que la plupart de ceux qui partent en Syrie sont bloqués à ce moment-là. Les convaincus, c'est plus tard. Donc le jeune universitaire, hein, qui est un diplôme universitaire et qui part quand même, vraiment, et qui se convertit, ce n'est pas celui qui s'est fixé à 13-14 ans. 13-14, c'est celui qui, en effet, est très encore jeu de rôle, est très héroïque fantasy, est très fort dans ces jeux où on a toujours, depuis l'habitat indo-européen, toujours un prêtre ou un chevalier et puis un manant. Et puis alors, on acquiert des pouvoirs fabuleux et alors on peut se battre contre des ennemis en clan ou tout seul. Et les images de Daesh s'inspirent totalement des jeux de rôle que les jeunes adorent. Donc, surtout les garçons, hein. Les filles recherchent plutôt un héros à aimer. Tandis que les garçons veulent être le héros qui ne sont pas dans leur vie, parce qu'ils sont mal dégrossis, qui ne ressemblent à pas grand-chose. Et alors vous avez aussi, ce que personne n'ose voir, mais tout le débat là quand même, avec cette madame Lalleux là, qui dès qu'on l'oublie, se repointe dans les médias pour évoquer à nouveau une question éthique, donc c'est un peu casse-pied. Donc maintenant elle a relancé la majorité sexuelle à 14 ans. C'est une connerie hallucinante, hein, vraiment. Mais voilà, je crois que maintenant tout le monde s'est calmé, parce que comment voulez-vous que les gens qui connaissent l'adolescence puissent prendre ça au sérieux 30 secondes? Parce qu'à 14 ans, les filles et les garçons n'ont rien à voir ensemble. Il y a au moins un décalage de 2 ans de maturité. Donc on devrait faire une majorité sexuelle pour les filles à 14 ans et pour les garçons à 16 ans. C'est déjà un peu compliqué, puisqu'on prétend qu'ils sont égaux, qu'ils sont les mêmes. Donc n'importe qui donne cours en premier, deuxième, troisième rénové, ça vient qu'il n'y a pas de mixité. Que les filles sont beaucoup plus vite mûres que les garçons, que ça s'intéresse qu'aux grandes, qu'aux mignons qui ont 15-16 ans, qui sont dans les grandes classes, que l'ado à côté d'elle, elle s'en fiche comme de la 40, alors que lui est tellement ému par sa féminité débutante. Donc il y a vraiment une inégalité, il y a vraiment, donc c'est un âge très compliqué. Donc, le temps du père, le danger, hein, dont vous attendez, c'est le pervers qui est là, c'est pas un père humanisant qui est à grandir, c'est un pervers qui canalise, qui entend l'attente, qui donne un excès de jouissance, ou un excès de réponse, pseudo-spirituelle, et qui leur vraiment cristallise l'évolution. Alors on va les voir plus bouger. Donc ça c'est clairement un vrai danger, surtout qu'il n'y a plus la fonction paternelle séparatrice et humanisante. Temps du père. Le temps du fils. Ça c'est typiquement la vraie adolescence. 14 ans, 17 ans, oui. C'est alors pour le fils ou la fille, bien évidemment, c'est... Nous, on a un bel héritage par rapport à ça, puisqu'on est la seule culture monothéiste, donc trinitaire, on est la seule au monde, hein, vraiment. C'est pour ça que la modernité est venue de chez nous, elle n'est pas venue, je dirais, du Coran, bien évidemment. Hein, donc, ils n'ont plus l'héritage juif. On est la seule religion du monde où le père, le fils équivaut le père. Ça, pour l'adolescent, c'est un projet fantastique, hein, vraiment, se dire... Si je crois en Dieu, trinitaire, je crois que le Fils est l'égal du Père. Hein. C'est une grande appétence juvénile, quand même. C'est un moment donné de faire aussi bien que le Père, voire mieux. Donc on est clairement dans la religion du Fils, le monde chrétien. Donc, ce qui est évidemment une religion donc, dont on gagne un peu à parler aux jeunes comme ça. Vous voyez, donc, à part que le Christ, il est crucifié. Donc, il est quand même... Et maintenant, avec, je ne sais pas si vous voyez toutes les images de décapitation et de crucifixion en Syrie, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est quand même... C'est terrifiant, hein, c'est vraiment... Personne n'avait imaginé, depuis 2000 ans, qu'on verrait sur YouTube, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas sur Internet, des images de décapitation et de crucifixion. En 2015, donc vraiment, c'était quand même hallucinant. C'était quand même, alors que nous, on la voit vraiment magnifiée, avec en effet tout l'art, je dirais, oui, au moment de la réforme, il y a eu quand même... Le monde chrétien catholique vaticanesque a essayé de magnifier le corps christique pour en faire en effet. Il y a toute une érotique de la beauté, je dirais, des œuvres religieuses qui est un peu limite. Hein, vous voyez Michel-Ange, là, si vous étiez voir la chapelle Sixtine, le Christ, donc, je dirais, la fin du monde, c'est son amant. Hein, donc, et Jules II le savait. Michel-Ange a pris son amant, pourquoi pas, hein, parce que c'était probablement un bel homme, mais quand même. Donc il y avait une drôle d'accointance entre l'image de Dieu fait homme, avec une image quand même assez érotisée, mais il faut un peu creuser les images. Et si vous voyez le Caravage, il y a quand même, je dirais, quand même une peinture contre-réforme, vraiment, je dirais, qui incarne Dieu dans le Fils, avec évidemment une coloration hautement humaine, enfin, qui n'est pas toujours archi-transcendante. Donc, on a une religion qui nous fait dire que Dieu s'est fait homme, et Dieu s'est fait homme dans le Fils. C'est drôlement intéressant, quand même, quand on a 15 ans de pouvoir penser ça, vraiment. Je ne pense pas que beaucoup de gens enseignent le catéchisme comme ça. Mais je dirais, le problème, c'est que ce Christ, quand même, vous voyez, donc, à Pâques, c'était quand même, c'est un adolescent, hein, il y a 30 ans, c'est la fin de l'adolescence contemporaine, il est révolutionnaire, il est rebelle, c'est une star, il est entouré de femmes et d'hommes qui le suivent, qui écoutent ses paroles, qui boivent vraiment comme des paroles d'évangile, c'est le cas de dire, et en fait, il dit des trucs qui choquent tout le monde, y compris les prêtres, je dirais de Jérusalem, il critique les offrandes. On pensait débarrasser des offrandes, oui, des sacrifices animaux. Hein, donc, or, dans la culture juive, vous savez que maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, l'extrême droite juive, qui maintenant va être alliée avec, l'ancien réélu, qui sont quand même des gens inquiétants, vraiment, c'est vraiment une droite juive musclée, ils veulent reconstruire le temple, je dirais, de Jérusalem. Vous voyez, à la place de la mosquée, on est parti quand même pour une guerre carabinée, il y a déjà un veau qui est en train d'être nourri pour être sacrifié à Jérusalem, en 2015, peut-être en 2014, ça personne ne sait, on ne peut pas trop savoir, on préfère vraiment oublier. Mais il y a 2000 ans, ce Jésus ado, vraiment de 30 ans, est venu chahuter complètement et du coup menacer l'ordre établi des prêtres, vraiment, je dirais, avec toutes les luttes qu'il y avait entre des sous-groupes juifs, pour dire en effet, c'est pas ça le message divin. Donc, c'est pas, Dieu ne demande pas un sacrifice animal qui profite aux prêtres qui se remplissent les poches. Hein, donc on pensait quand même avoir fait un saut depuis Isaac et depuis Ismaël, donc il n'y aurait plus de sacrifice humain, mais plus non plus animal. Parce que pourquoi Dieu voudrait qu'on tue, vous voyez, l'agneau, pas d'or, ou bien un mouton, ou des colombes, vraiment, pour que le sang coule et que les prêtres se remplissent les poches. Donc il y a un événement quand même majeur dans l'histoire de l'humanité, parce qu'en plus c'est une secte qui a réussi. Les autres ont raté, et c'est le seul Messie qui a cartonné. Et il y en avait plusieurs à l'époque, mais les autres, on les a oubliés. Donc, mais il n'a pas pris les armes, contrairement, je dirais, aux prophètes. Il n'est pas devenu médinique après avoir été à la Mecque. Il n'est pas parti en guerre contre Rome. Il s'est fait tuer avant, hein, évidemment. Donc, alors, l'idée d'un Dieu incarné dans le Fils et qui meurt, parce que Dieu est mort, hein, donc quand même, on se dit, est-ce que Nietzsche l'a inventé? Mais non, l'Évangile l'a dit avant. Parce que Jésus, dans la croyance de Nicée, est Dieu d'entrée de jeu. Il n'est pas devenu Dieu, il était déjà Dieu quand il a été conçu. Donc l'Église est embêtée parce que c'est très compliqué. Hein. L'Immaculée Conception, c'est un truc. Ils ont mis 19 siècles pour l'inventer, hein, vraiment. Mais ce n'est pas une invention intelligente, hein, vraiment. Parce que quand même, si vous dites. Enfin, c'est vraiment. Soit. Il fallait après ça que le pape soit infaillible pour que les gens avalent la pilule. Hein. Sinon, c'est la pilule, c'est qu'elle te dit. Il n'y avait pas de pilule à l'époque, mais quand même. Donc ça, c'est un truc complètement farfelu. Mais l'idée. Que Dieu s'incarne dans Jésus et que Dieu, fait homme, meurt, eh bien, on a déjà la mort de Dieu dans notre héritage à nous. Après ça, il ressuscite, si on pense en effet que l'amour est plus grand que la mort. Donc on a un héritage chrétien, puissant, trinitaire, avec, dans le temps du Fils, l'idée qu'en effet, le divin est d'abord dans l'homme, il n'est pas dans le ciel et il n'est pas dans le Père éternel, il est incarné chez nous tous, dans l'idée de l'amour. Quand même, qui est un joli message, quand même, qui est typiquement l'espérance juvénile. Parce qu'on découvre l'amour dans l'adolescence, l'amour amoureux. Donc, on découvre la puissance de l'attirance, on découvre la puissance du désir, on découvre la force incroyable de l'amitié, la force du sentiment amoureux, et ses faiblesses, ses avatars, et sa douleur. Espérance éminemment juvénile, donc où le fils et la fille découvrent qu'en effet, pour croire en lui, il faut qu'il croie aussi en l'autre. Que sa propre identité se construit dans la rencontre avec l'autre. C'est typiquement le travail juvénile, qui doit accompagner, avec en effet, pour chacun d'eux, quand ils ont la chance de vivre, parce qu'au début on se tape des râteaux, quand même, c'est quand même, ça ne marche pas tout seul, hein, donc, d'aimer quelqu'un, parce qu'au début on s'aime beaucoup soi-même. Donc, mais si on fait l'effort d'aimer dans l'autre l'autre et pas le double de soi-même, comme dans la passion, on fait une expérience fantastique. Évidemment, on a un goût de plus grand que soi. On découvre à son insu une dimension transcendantale dans son expérience d'amour elle-même. Et là, on peut commencer à penser qu'en effet, il y a là quelque chose de plus grand que soi, qui peut être en effet un petit divin, enfin, ou en tout cas qu'on pourrait avoir envie de sacraliser, qui a envie de s'aimer pour toujours. C'est quand même un joli pari. C'est typiquement l'expérience, je dirais, du temps du Fils. Et le troisième temps, le temps de l'Esprit, c'est probablement la dernière adolescence, donc, je dirais, qui m'attend, est beaucoup plus tardive. Donc on la commence à 18 ans, mais on peut la finir à 25 ans. Donc c'est le temps où il faudrait appliquer, bien mettre en place dans sa vie l'idéal que l'on s'est construit. Oui, cet idéal, évidemment, il a pris des tournures multiples. Donc, il est au départ l'envie de croire, avec le danger de croire dans des dieux pervers, ou de croire dans le divin marché, dans le veau d'or, être riche, beau et célèbre. Donc, croire dans des images qu'on leur présente. Donc, évidemment, le marchand, qui connaît sa chez le jeune et qui sait que le jeune est une tranche économique puissante, suscite tout le temps des illusions que des objets pourraient donner un sentiment de toute puissance. Possède ce smartphone et tu deviens quelqu'un de formidable. Donc on a beaucoup joué sur ce besoin-là, mais plutôt que d'éveiller à la conscience d'un plus grand que soi, ou de l'engagement, ou de l'éveil à l'amour, ou de la recherche d'une spiritualité, on tente de faire croire que c'est des objets qui vont tout arranger. Et notre monde consumériste, évidemment, a dupé beaucoup de jeunes. Beaucoup disent, moi je ne veux pas passer ma vie à la gagner. Je ne veux pas faire que mon père ou ma mère est obsédé uniquement par des signes extérieurs de richesse. D'autres, au contraire, veulent à tout prix. Donc, sont prêts à mordre leur chic pour devenir trader ou pour devenir célèbre. Ce sont des leurs. Hein, les plus malins se rendent bien compte quand même que ça ne tient pas de la longueur. Ils voient les pères ou les mères perdre leur boulot, faire un burn-out, se décourager, entrer en faillite, avoir des problèmes d'argent, se retrouver à perdre leur prestige. Donc, les adolescents voient cela. Donc, ils voient l'envers de la médaille. Quand on les aide un tout petit peu, je dirais, à ouvrir les yeux, ils se rendent bien compte quand même que le consumérisme ne garantit aucun bonheur. Donc ce temps du Fils passe dans ce temps d'esprit. Alors l'esprit, moi, j'aime beaucoup la métaphore parce que, vous voyez, avec le 7 janvier 2015, quand même, vous avez vu, enfin, on parle plus beaucoup de ça, mais c'était quand même une grande question, je dirais, la question du blasphème. Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde ? Voilà. Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde ? Voilà. Or, je dirais l'adolescence, c'est un âge où le rire ou l'humour a beaucoup d'importance. L'humour, c'est vraiment indispensable pour pouvoir séduire. Et puis, il n'y a plus un spectacle sans les humoristes. Donc, en général, ils pratiquent l'ironie, le cynisme, la moquerie. Il y a un humour dangereux. Donc, je pense que l'ironie est un humour qui tue. Et entre eux, ils ne se ratent pas. Donc, ils s'envoient des vannes, ils se blessent. On peut rire jaune, donc on prend un bouc émissaire, le groupe se moque de lui, on le malmène. Donc l'humour menaçant et séduisant est une grande question juvénile. Moi, j'ai donné des cours thématiques à mes étudiants en disant, voilà, je vous donne 31, on va en choisir 15, vous allez voter, et puis je prends ces 15-là. L'humour venait toujours en troisième position après l'amour et la mort. C'est curieux. L'amour en 1, la mort en 2, l'humour en 3. Quasi chaque année. Donc, donner un cours sur l'humour, c'est le sujet le plus dur. C'est un sujet terriblement compliqué de décrire le phénomène du rire, vous voyez, donc le mot d'esprit, donc, qui est une formation de l'inconscient. Donc, ça demandait beaucoup de travail. Donc, j'avais beaucoup l'idée d'esprit parce que vous avez dedans les mots mélangés. Donc de avoir de l'esprit, donc, oui, donc c'est quand même important pour être quelqu'un d'élégant, avoir d'esprit. Quel esprit as-tu ? L'esprit est devenu aussi la métaphore de l'appareil à penser. Donc, puisque l'âme a disparu, donc l'âme ayant disparu, elle est devenue l'appareil psychique. Et les gens pensent l'esprit. Donc les historiens de la psychiatrie, parce que je suis psychiatre aussi, parlaient des praticiens de l'esprit humain. Oui, donc, et maintenant, tous les gens que l'on finance de dur et cher pour faire consommer, on les emploie pour réfléchir à comment manipuler l'esprit des autres. Oui, donc Daesh, avec son ministère de communication, a des gens licenciés en psychologie et en communication qui réfléchissent à des formules qui vont entrer dans l'esprit de ceux qui les écoutent, avec les émotions associées, la musique, les images et les signifiants qui parlent directement à l'inconscient. Donc c'est un enjeu majeur. Et en plus, l'adolescence, c'est l'âge le plus intelligent de la vie. Donc, l'imagerie médicale le montre bien, le cerveau est abouti à 25 ans, mais il prend une ampleur, une extension et une multiplication de ses réseaux incroyables entre 13 ans et 25 ans. Et en fonction des rencontres et des expériences qu'ils vivent les uns et les autres. Donc c'est majeur ce qui se passe là, oui, donc, puisque ça va construire l'appareil à penser, clairement, alors, synaptique, oui, donc vraiment, sur lequel vont se construire les émotions, le sens moral, la connaissance de l'autre, l'intelligence, le rapport amoureux. Et d'ailleurs, on voit bien que l'imagerie médicale d'un jeune génération Z, donc né après 95, donc après le web, est très différente de l'imagerie médicale de ceux qui sont nés avant 1995. Donc il y a vraiment un changement neurophysiologique repérable de manière scientifique. Donc un petit qui est né après, qui a eu tout de suite une tablette, vous voyez, maintenant on fait des tablettes jeux, et l'adolescent qui n'a pas un smartphone, il est complètement handicapé. Donc évidemment, ça leur donne un rapport à la connaissance et à l'autre, au regard, à la voix, parce que c'est un appareil qui fait tout, donc qui téléphone, qui enregistre, qui donne accès au monde entier, à toutes les connaissances du monde. Enfin, c'est un appareil hallucinant. Hein. Personne n'aurait pu l'imaginer en 92-93. On aurait déliré, on aurait décrit un smartphone, on passait pour complètement fou. Maintenant, tout le monde en a un. Mais on ne voit pas qu'évidemment, cette mutation-là, alors, elle amène une modernité prodigieuse, donc une mondialisation, un changement économique, un changement des rapports entre les gens, mais dans la quête de la vérité et dans la recherche de l'idéal, elle a évidemment une influence majeure, puisque Daesh recrute surtout par les réseaux, beaucoup plus que par les mosquées et que par les prisons. Parce qu'évidemment, l'ado qui cherche sa vérité, mettons, le temps de l'esprit, qui se dit au fond, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Et on se dit, pas celle de mes parents. Beaucoup pensent, hein, pas tous quand même. Ils ne sont pas très heureux, ils ne sont pas très épanouis, ou leur couple est foireux, ou ils ont construit des familles problématiques, ou ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont hyper bien. Hein, enfin, les parents parfaits, c'est le pire. Hein, donc, parce que vraiment, les parents qui font tout bien, c'est insupportable. Heureusement, les parents s'arrangent pour ne pas faire tout bien, donc ils sont acceptables pour la plupart des jeunes. Mais donc, si vous mettez à vous dire, je veux comprendre avec mon intelligence qui est nouvelle, donc elle se développe. Donc, un enfant n'a pas de pensée conceptuelle. Mais donc, pourquoi les jeunes ratent en 3e, 4e général? Oui, donc c'est l'âge où ils les échecquent. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'évidemment, ceux qui vont bien entrent sans aucun effort dans ce nouveau pouvoir associé au pouvoir de générer la vie, qui est le pouvoir de penser, qui est éminemment juvénile. Donc, ils découvrent la pensée conceptuelle et abstraite, dont l'enfant est totalement incapable. Ça leur est donné en même temps. Donc, parce qu'en effet, le cerveau doit permettre de penser la génération, la fécondité, la sexualité, l'amour, la mort, le désir, l'angoisse. Vous voyez, donc il faut le penser, puisque c'est là en leur possession. Ça leur est donné avec, petit à petit, l'outil nécessaire pour pouvoir tenter de le gérer. Donc c'est un âge extrêmement intelligent. Et évidemment, alors, quand cette intelligence leur tombe dessus trop vite, si à une fois ils deviennent géniaux, ils se mettent à avoir peur de devenir fous. C'est pour ça qu'il y a un danger de folie, c'est qu'évidemment, cette capacité de sortie de soi et de penser le monde et d'utiliser des références pour pouvoir jongler avec des concepts est à la fois vertigineuse et terriblement dangereuse. Évidemment, après une ampleur en 2015 qu'on n'aurait pas pu imaginer avant 1995. Oui, donc, du coup, nous qui devons transmettre, on est archi-embarrassés. Comment voulez-vous évaluer une connaissance d'un jeune, puisque tous les copier-coller sont quasi autorisés, qu'ils ont accès à tous les savoirs du monde, sans passer par le maître, ils peuvent les critiquer, ils peuvent chercher par eux-mêmes à être moins documentés. Alors vous leur dites, on va chercher la vérité. Question contemporaine. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'antisémitisme, hein? Question intéressante. Ou pourquoi est-ce que la Syrie est à feu et à sang, et pourquoi les chiites et les sunnites se détestent et sont prêts à s'égorger les uns les autres? Vous savez, vous avez réfléchi à ça. C'est quand même pas la même chose. D'où vient cette guerre religieuse? Et pourquoi est-ce qu'elle a reflambé? Depuis combien de temps? Donc c'est quand même des... Si vous ne faites pas l'histoire, vous ne comprenez rien au monde contemporain. Hein, donc, mais qui leur explique cela? Vous voyez, donc, 8 mai 1945, hein, Hitler se suicide, ou il est suicidé. Donc, il a empoisonné son chien, et puis il a empoisonné sa femme qui vient d'épouser, et puis il se tire dans la tête. 3 jours avant, on le voit serrer des pinces d'adolescents qui ont 15-16 ans. Je ne sais pas si vous avez vu, dans Berlin, à feu et à sang, à qui il donne une petite tape parce qu'ils vont aller se faire tuer pour lui. Ce sont les derniers adolescents, hein, parce qu'il y en a eu déjà des centaines de milliers, vraiment, ou plusieurs millions, qui sont morts pour lui. Donc, et puis après ça, on retrouve plus ses traces. Et puis, toute l'Europe est à feu, à sang. Hein. On pense que c'est la liberté. Maintenant, les langues se délient hein, sur la galère que ça a été, hein, 45, 46, 47, 48, vraiment, la famine, les pères revenus des camps en Wallonie, parce qu'en Flandre, ils ont été libérés directement parce qu'ils étaient flamands. Donc, les autres, ils ont passé 4 ans en tôle, vraiment dans des conditions humiliantes, et ont perdu une guerre, revenant déchus de l'héroïsme qu'avait leur propre père en 18, donc ceux qui avaient survécu. Donc tout ça, on a oublié. Donc, les hommes brisés, donc humiliés, les femmes qui ont dû vivre sans eux, les enfants qui sont nés, je dirais, juste après la guerre, pour vraiment... Donc tout le baby-boom sur un non-dit sur cette guerre, hein, donc l'ouverture des camps. Donc oui, mais pour l'antisémitisme, on a sorti l'année passée, en 2014, le film fait par Hitchcock, qu'il a monté en 1945. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est terrifiant, vraiment. Donc Hitchcock a participé avec un juif. Ils ont filmé les camps, donc, pas ceux qui étaient du côté russe. Les Russes ont fait jouer par les derniers survivants les conditions des tensions. Donc bon, on les a trouvés après 1989. Et ce n'est que maintenant auquel on a accès. Et ce film a été caché durant 60 ans. Parce qu'évidemment, en 1945, ça aurait fait tâche. Il fallait reconstruire l'Allemagne. On n'allait pas montrer les abominations. Puis on s'est retrouvé en 1945. Ça aussi, on ne dit pas aux jeunes. Avec des milliers de survivants dans les camps dont personne ne voulait. Il fallait revisiter l'antisémitisme généralisé de l'Europe et alimenté par le monde chrétien. C'est embarrassant quand même. Hein. On a sorti la phrase du peuple d'Issie du canon de la messe dans Vatican II, pas avant. Jusque-là, vous avez dans chaque canon de la messe chrétienne une évocation du peuple déicide, les juifs. Donc, ça, c'est un peu gênant. Donc, on se trouve là avec des milliers de corps vivants, affamés, dont personne n'a voulu. Mais déjà, en 1939, Hitler disait « Prenez ces juifs, puisque personne n'en voulait non plus. » Donc, on a été complices, tout l'Occident, de l'Holocauste. Ça, on n'aime pas trop entendre. Et si on revoit maintenant, après 70 ans de silence, les images de ce qu'on a découvert en 1945, on comprend l'antisémitisme culpabilisé et interdit, on comprend Israël, parce que personne n'en voulait, alors qu'est-ce qu'on a fait ? Madagascar. Mais tous les juifs survivants à Madagascar. Ah non, alors on prend le mouvement sioniste, on va les mettre en Palestine. Donc comme ça, au moins, on est débarrassé d'eux, puisque personne n'en voulait. On a construit Israël sur un déni de l'Holocauste et de notre antisémitisme à tous. Et voilà, personne n'ose dire cela. On dit alors pourquoi est-ce que l'Amérique du Nord et l'Occident laissent Israël attaquer la bande de Gaza. Et maintenant, vous avez entendu les miliciens israéliens qui disent comment ils sont amusés à abattre des civils. Aujourd'hui, ça s'est sorti là depuis 2-3 jours. Vous avez ça dans toutes les guerres du monde. Hein. Donc, vous faites sauter l'interdit, tout saute. Donc, vous faites un jeune milicien. C'est vrai aussi pour nos paracommandos, hein, vous rappelez. En Somalie, là, ils ont torturé les enfants noirs. Donc, vous faites sauter l'interdit du meurtre, hein, les autres sautent. Donc ils sont acquis dans la petite enfance, donc celui de l'inceste, parce que pourquoi est-ce qu'on coupe des femmes enceintes pour leur arracher leur ventre, dans leur ventre, vous voyez, en Serbie, en Croatie, donc il y a 10 ans, donc, vous voyez, enfin 10 ans, dans l'an 4, bon, 15 ans, Europe centrale, donc des protestants, des catholiques, donc des gens évolués, donc on n'est même pas dans l'Afrique, on pourrait penser barbare, la sauvagerie de cette guerre dont plus personne ne veut parler, on en a un peu, alors, il y a eu des monstruosités qu'on ne voit qu'en temps de guerre, dans toutes les guerres du monde, et chez tous les adolescents guerriers du monde, qui, au nom de leur besoin de croire, de la fascination qu'ils ont pour l'autorité, leur soumission à un ordre qui leur présente un monde manichéen et simple, qui leur explique pourquoi est-ce que sacrifier est anoblissant et la plus belle preuve de leur foi dans quelque chose qui est plus grand qu'eux, en font toujours la chair à canon ou des gens qui pètent les plombs et qui font des abominations, dans lequel le meurtre saute, légitimement, on va voir ça, on tue pour le plaisir, c'est quand même pas permettant, la cruauté se redéploie, et le sexuel violent, qui avait été normalement quand même canalisé par l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, l'interdit de... Vous voyez, donc, qui avait été acquis, explose. Et alors c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux femmes enceintes et qu'ils coupent leur ventre. Vous voyez, en Serbie, ce jeune pas psychotique qui prenait un bébé des mains de sa mère, la mettait dans une bétonneuse, obligeait la mère à faire tourner la bétonneuse pour voir son enfant éclater. Il faut être un humain pour inventer un truc pareil. Hein. Et ils avaient 22 ans. Et aucun n'est parti en psychiatrie. Personne. Devant. Tout est recouvert. Amnistie. Interdiction. Donc, j'espère que vous entendez, parce que donc, je refais l'histoire, parce que je pense que l'histoire est contemporaine. Oui, donc c'est aujourd'hui. Oui, donc c'est vraiment... on a cru intelligent de faire sauter Kadhafi, que Sarkozy avait invité un 14 juillet, je sais pas si vous vous rappelez, avec sa tante, là, juste de... c'était il n'y a pas longtemps, hein. Et après ça, Bernard Ludovic prétend que c'est un monstre qu'il faut le tuer. Donc, mais il avait une fonction de protection qu'avait de la migration qui a fonctionné durant 25 ans. Maintenant, la Libye est à feu et à sang. Il avait assez dit, hein, sans moi, il n'y aura que du désordre. En Syrie, Bachar el-Assad était un type insupportable. Donc, on veut limoger. Maintenant, on est tellement impuissant devant Daesh qu'on voudrait le ramener. Donc, vous avez vu que maintenant, il se fait interroger sur France 2, là, il y a 8 jours. Donc, c'est... À mon âge, je suis choqué. Mais j'aurais 17 ans. J'aurais plus envie de croire en personne. Je me suis dit, je vis dans un monde où tout le monde ment. La vérité journalistique, la vérité politique, les discours explicatifs des dérapages vengés à la humanité, j'en suis noyé, je suis effrayé par ça, donc je cherche ma vérité tout seul. Et je la cherche sur Internet, et ben, la vérité, c'est le site qui est le plus visité sur Google. Où, évidemment, la théorie du complot, où tous les fanatiques sont là, donc avec des discours haineux, sauvages, brutaux, en jouant sur la haine identitaire, en montrant en boucle des décapitations. Enfin, comment voulez-vous avoir le recul nécessaire? D'abord, c'est insupportable. Quand vous voyez une décapitation en boucle, hein, vraiment faite par un jeune qui a clairement un accent français, donc qui participe à la prise d'otage et qui se montre héroïque dans ce geste d'une sauvagerie inimaginable, qu'après ça, on vous montre une crucifixion dont vous-même n'avez aucune idée de l'histoire de cette torture et pourquoi le monde chrétien l'a choisi comme symbole de la modalité chrétienne plutôt que l'icône, je dirais, vraiment orthodoxe. Vous voyez, donc, nous, on a choisi quand même, au moment de tout un cas des images, le Fils crucifié. Alors, si on ne l'explique pas, comment vous pouvez comprendre le monde dans lequel il faut grandir? À l'âge où vous voulez croire, et du coup, vous n'avez plus envie de croire en personne, sauf dans celui qui a l'air d'être complètement convaincant, qui vous donne une lecture manichéenne, sommaire, simpliste, où tout a l'air d'aller de soi, et tout, en plus, a l'air d'être là de tout temps, comme une vérité divine. Je ne sais pas si vous entendez mon cheminement. Donc c'est 3 temps. J'ai encore 5 minutes. Donc, c'est 3 temps. Donc, le temps du père, hein, avec les pères vides, absents. Donc, et en effet, aussi le deuil des images parentales, parce qu'en effet, il faut un père séparateur, humanisant, et qui ranime l'envie de croire, qui soit vraiment, je dirais, un père sur lequel on puisse s'appuyer, et pas un pervers séducteur, bien évidemment. Le temps du fils, on peut penser qu'en effet, on peut parfois envie de tuer son père ou sa mère, on peut parfois envie de grandir, de prendre leur place, mais on peut penser aussi qu'on a en nous, quand on a 15, 16, 17 ans, les moyens de penser le monde, le moyen de rêver une vie autre, le moyen de penser qu'une vie réussie, c'est d'être adolescent, accompli à l'âge adulte. Penser qu'on est, comme disait Rimbaud, le bruissement de la grâce, donc croisé de violences nouvelles. Vous voyez, donc, le bruissement. Donc, il y a la grâce juvénile, incontestablement, dans le mouvement amoureux et dans leur séduction. Et puis, ces violences nouvelles croisées, mais non pas au point de devenir croisées à nouveau. Il faut leur dire, si Ben Laden a fait rejaillir, vous voyez, Ben Laden, c'était un type intelligent, hein, la métaphore du croisé qu'on entend chez El-Baghdadi, le patron de Daesh. Vous voyez, enfin, il évoque aussi les croisés. Donc, nous, on pensait être libérés depuis Godefroy de Bouillon, qui était une espèce de monstre qui a sa statue. Vous voyez, place royale, c'était un type abominable. Hein, le cas de Bouillon, on a vraiment, il a tué des tas de gens dans une sauvagerie folle. On le prend comme un héros, mais on ne peut pas être très fier. Mais si, on revisite les croisades, donc l'époque où des jeunes, à cause de Bernard de Clairvaux, partaient par centaines de milliers à pied, vraiment. Parce qu'à l'époque, vous imaginez le temps que ça prenait pour arriver en Palestine, vraiment, pour tuer des musulmans, donc qui étaient évidemment beaucoup plus évolués qu'eux, parce que je dirais toute la modernité était du côté musulman, hein, parce qu'évidemment, nous autres, avec l'Église et la chrétienté, on avait enfoui tous les textes grecs et latins, il y avait une espèce de raideur dans les mots transmissions, et vous aviez, je dirais, la barbarie était chez nous, hein, c'était nous les sauvages, c'était eux les gens cultivés, qui avaient Cordoue, qui avaient des grandes bibliothèques, avec des gens qui traduisaient tous les textes grecs vraiment en arabe littéraire. Donc, clairement, je vous rappelle quand même qu'ils sont montés quasi jusqu'à Vienne, hein, ils ont pris Budapest durant plusieurs siècles, mais Vienne a failli être musulmane aussi, mais vraiment en 1650, hein, donc on a été longtemps menacés, donc ça on oublie. Mais on ne comprend pas que le monde musulman en 2015 est dans une totale nostalgie de cela. Et qu'évidemment, le califat, c'est un truc que je veux terminer. Donc, moi j'ai compris ça tout récemment quand j'ai vu une émission sur le califat. Donc, le califat, oui, c'est un signifiant majeur du monde musulman. Donc, et Daesh reconstruit un grand califat, et Boko Haram tâche d'en faire un autre plus petit, mais il est quand même aussi solidement sauvage, et ils attirent nos enfants à nous. Et je pense qu'en effet, je ne serais pas plus rassuré s'ils repartaient comme croisés, parce que maintenant, vous avez aussi des jeunes chrétiens qui repartent se battre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand même, avec les druzes, donc, il y a en même temps aussi des jeunes chrétiens qui viennent se battre dans une vraie guerre de religion, parce que les chrétiens, les minorités, sont quand même très menacés dans ces parties du monde qu'on pensait apaisées, hein, qu'on appelle la Terre Sainte. Eh bien, le croisé est un signifiant majeur de la haine de l'islam depuis 1000 ans contre le monde chrétien, et qui est probablement qui alimente ce qui est dans l'ADN du Coran. Quand on dit ça, c'est politiquement incorrect, mais l'ADN du Coran est clairement un ADN antisémite et antichrétien, puisque c'est la troisième religion monothéiste que eux seuls connaissent l'histoire vraie de Jésus. Je ne sais pas si vous savez, c'est un Jésus est un pilier devant du Coran, mais un Jésus revisité, qui n'est pas crucifié, et qui n'est pas le Fils de Dieu, qui est un prophète. Et si vous ne croyez pas dans ce Jésus-là, en effet, là, vous êtes vous-même un infidèle. Et eux connaissent mieux que nous, parce que c'est au 7e siècle que Mahomet a revisité l'héritage chrétien et juif. Et donc il y a, dans une guerre de religion, de tout imam qui n'est pas évolué et qui n'a pas revisité, contextualisé l'histoire du Coran dans son époque, à l'époque et son histoire ultérieure, vous pratiquez le Coran à la lettre, vous pouvez qu'être profondément antisémite et antichrétien. On a intérêt à le savoir quand même. Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine de réfléchir à ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on fait semblant? D'abord, ou on ne le sait pas, ou on n'en veut rien savoir, ou on ne veut rien comprendre. Alors, pour conclure, dans un monde mondialisé, à l'heure, avec une génération Z, avec les halos bleus, donc avec les écrans qui servent de référence pour tous les jeunes du monde entier. Donc, la transmission se fait comment? On ne va plus les mettre, je dirais, dans la brousse, les attacher dans des arbres, leur faire faire des rituels scouts pour pouvoir les initier. Ça ne marche plus du tout. On sait qu'ils ont accès à tout, mais ils ne savent pas comment trier. Ils reçoivent des messages, et ils pensent que c'est le plus visité qui est le plus vrai. Ce qui est... Il y a des tas de conneries, hein, quand même, aussi, sur Wikipédia. Mais eux n'ont pas les moyens de pouvoir prendre du recul. Donc, on est tenu comme parents, comme éducateurs, comme formateurs, de faire ce qu'on demande aux jeunes imams, vous avez entendu tout le débat, donc de créer une faculté théologique, je dirais coranique, qui serait soutenue par l'État, où on est sûr quand même que les imams en Belgique prêcheraient dans la langue des gens qu'ils forment, seraient plus financés par l'Arabie saoudite, par le Maroc ou bien par la Turquie, et en effet, on aurait un regard critique et historique sur l'enseignement de l'islam. Mais on peut le faire nous aussi, comme chrétiens. Reparler avec eux des croisés, reparler de Nicée, reparler de comment Jésus est devenu le Fils de Dieu, reparler de la Trinité, reparler des conneries de la chrétienté, reparler quand même des monstruosités, des pages noires de l'Église, quand même vraiment. À l'époque, on avait la toute-puissance et on était très loin de l'Évangile, on était dans une gestion patrimoniale, vraiment, et où le pape était un empereur, quand même vraiment. Il n'est plus. On a maintenant enfin François Ier, quand même. Vous avez vu ce qu'il a dit sur la curie, il n'avait pas été de main morte, hein. Tout le monde le pense depuis 100 ans. C'est le premier qui ose le dire. Je vous garantis qu'il est en danger de mort. Hein. Il a intérêt à avoir des cartes du corps parce qu'il va se retrouver empoisonné comme Paul VI ou de c'est quoi. Donc il est... Parce que la curie, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Il y a vraiment des monopoles. Il y a beaucoup d'argent à la clé, beaucoup de pouvoir. Donc il y a un devoir. Ce que nous, on voudrait, pour éviter que nos enfants soient attirés par le djihadisme, qui est très, très séduisant, hein, parce qu'il est ancien, radical, fascinant, manichéen, donc au moins le monde devient simple, il ramène la différence des sexes de manière la plus sommaire, il remet en place une pyramide hiérarchique où l'homme domine la femme, donc il y a des hommes qui s'appelaient, des femmes qui s'appelaient aussi, donc il demande aux femmes de faire des enfants à des djihadistes pour en faire des machines à tuer. On demandait la même chose à nos mères et à nos grands-mères, hein, on l'oublie. Donc si on leur demande de visiter l'histoire de leurs origines, de contextualiser le Coran, de re-raconter aussi la grandeur de l'islam, donc reparler de Cordoue, comme je dirais, de ce savoir magnifique dont ils ont la nostalgie à juste titre, vraiment. Montrer les sourates médiniques en les opposant, je dirais, aux Mécoises. Quand Mahomet est devenu un guerrier, ces sourates ont été violentes. Quand il n'était pas guerrier, les sourates étaient beaucoup plus universelles. Donc on peut montrer, ça serait intéressant. Mais on doit faire, nous, la même chose. Faire l'effort de revisiter notre credo, qui quand même... un peu imbuvable, quand même, vraiment, c'est quand même compliqué de dire le credo en essayant d'y croire, parce que c'est un compromis politique. Donc on pourrait montrer le compromis politique, nous les Belges, on les aime bien quand même, comment sans Constantin, le Créde n'aurait jamais existé. Donc il a affamé, c'est vraiment le premier conclave, il a affamé tous les évêques, princes de Rome ensemble, en disant « Vous ne sortez pas si vous n'êtes pas d'accord. » Alors ils ont fini par signer. Mais nous, depuis lors, depuis 15 siècles, on le récite sans le contextualiser non plus. Donc on peut faire le même effort, et je pense que c'est là une transmission très intéressante. Et là, on pourrait leur montrer, c'est là-dessus que je vais terminer, que dans l'envie de croire que Dieu ou que l'idée de Dieu est une idée éminemment inconsciente et universelle, que dans le christianisme, elle s'est incarnée dans l'idée du Fils comme l'égal du Père, dans une histoire qui est une secte qui a réussi, qui a aboli définitivement tout sacrifice humain, et qui a pensé qu'un Dieu le Père qui demande encore un sacrifice humain est forcément un Dieu pervers, hein, et que cette idée du Dieu, là, est une idée trinitaire, qui est une idée que tout amour humain peut vivre si un homme et une femme, ou deux hommes ou des femmes se rencontrent, se désirent, construisent un projet en commun, et, je dirais, sacralisent leur amour par une alliance. Je vous remercie.
Maintenant, si certains veulent la détacher pour poser l'une ou l'autre question, à vous la parole.
Merci. Et la question, c'est pourquoi est-ce que auprès des jeunes, le catholicisme est si peu performatif et que ils ne trouvent aucune réponse, semble-t-il, à leur idéal, à leur recherche idéale dans le catholicisme.
Je pensais que mon exposé avait essayé de montrer cela. Je pense que si le catholicisme s'en tient à une démarche catéchétique, il n'aura aucun succès. Si le christianisme, donc le catholicisme, fait l'effort que le monde entier demande à l'islam, donc de contextualiser son histoire, vraiment, depuis le début jusqu'à maintenant, en montrant les grandes pages et de gloire et d'ombre que ce même catholicisme a traversé, et ramène dans les modes de transmission, avec l'aide, peut-être justement, l'éclairage des sciences humaines, vous voyez, qui est fantastique, enfin, quand Marie Balmary revisite la Genèse, elle donne à la Genèse un souffle tout nouveau, donc vraiment, donc. Si vous ne faites pas cela, alors vous devenez créationniste comme le fils Bush. Donc vraiment, c'est absurde de penser que le monde a été créé en 7 jours. Mais si on le revisite avec le savoir actuel que l'on a quand même de l'histoire de ces textes et qu'on leur donne un statut des mythes dont on manque cruellement aujourd'hui, qui nous aiderait à penser notre humanité, je pense qu'on pourrait vraiment, quand on parle à des adolescents, entendre une mouche voler. Donc moi, quand j'ai donné cours, j'ai donné beaucoup de cours sur, donc c'était vraiment donc après 2001, sur la psychologie du kamikaze. Je voyais que tous les jeunes de l'auditoire, il y avait beaucoup de filles voilées, étaient captivés par l'idée qu'est-ce que Mohamed Atta avait en tête en entrant dans une tour du World Trade Center et en pensant que Allah était grand. Voilà. Vous parlez de ça à des jeunes, ils sont archi intéressés. Donc quelle idée on peut se faire de plus grand que soi? Quelle idée on peut se faire du sacrifice? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée de ce qui est transcendant, qui nous dépasse vraiment, et comment on peut le vivre dans la vie de tous les jours? Et comment l'héritage chrétien nous donne, par rapport à ça, quand même, un bagage incroyable, en montrant que c'est ce bagage-là qui a permis de la modernité. C'est ça un cours de religion intéressant. Et ça intéresse tous les jeunes, évidemment. Vous voyez, donc, si vous faites ça, je pense que que les églises vont se remplir. Donc je vais prendre encore l'autre exemple, parce que ça m'a beaucoup intéressé aussi, pourquoi est-ce que l'Eucharistie n'intéresse personne? Oui, donc la messe. Hein. D'abord, je rappellerai à mes étudiants, si j'ai un cours de religion, qu'avant l'an 1000, on devait assister qu'à 2 messes par an. Hein. Depuis que la chrétienté fait la messe le dimanche, ça c'était quand même beaucoup demandé. Quand même. Hein. Mais quand il y avait 2 par an, c'est jouable. Donc je dis à Pâques, ou bien je dirais à Noël, on serait tous d'accord. Et si en plus, quand le prêtre, je dirais, célèbre l'Eucharistie, il fait un commentaire intelligent sur l'opération métaphorique qu'est l'Eucharistie, qui est de changer du pain et du vin en le corps et le sang, ou le corps et le sang en pain et en vin qui est devenu communion. Donc on célèbre un repas cannibalique. Cannibalique. Là, vous allez dire, tout le monde s'en fout. Attendez, Maintenant, le cannibalisme a bien repoussé, hein, dans nos anciennes colonies christianisées. Les jeunes qui ont un appareil portable sur eux reboivent le sang de l'ennemi et remangent le corps de l'ennemi en 2015. C'est quand même... Donc, or, ils ont été christianisés. Alors, d'où revient l'idée cannibalique ? Enfin, d'où vient l'idée ? On a quand même là-dessus des connaissances contemporaines, archi-intéressantes, anthropologiques, sur l'histoire du cannibalisme. Et que dans le monde chrétien, avec l'avènement christique, le cannibalisme s'arrête et il devient une communion eucharistique. Ben, moi, depuis que je pense ça, je suis tout content de communier. Avant, quand je vais réfléchir à la transsubstantiation, que je pense à ma grand-mère qui avait peur de mordre l'hostie parce que du sang allait couler sous sa lèvre, je me dis quand même, on vient quand même d'une période obscure, quand même, vraiment. Voyez, voilà. Donc si le monde chrétien pouvait se libérer de ces vieux démons, donc vous voyez, le pouvoir de chrétien, la peur, le péché, l'enfer, plus personne ne croit dans l'enfer. Heureusement, vous vous rendez compte. L'idée de damnation dans laquelle ma génération a encore cru un petit peu était terrifiante. Maintenant, ça fait mourir de rire tout le monde. Donc, voilà. Donc il y a une... Il y a, et tout est dans l'évangile. Donc, il ne faut pas chercher très loin. Donc, il faut s'affranchir du côté poussiéreux, alourdi, des dérives de la chrétienté comme un empire terrestre qui n'est plus, et tant mieux, et maintenant on a un pape qui le permet, vraiment, pour retrouver toute la puissance atemporelle et formidablement juvénile et vraiment révolutionnaire de l'évangile. Et ça, ça va parler beaucoup aux jeunes. Ça vous donne des pistes ? Venez prendre cours chez moi.
Il me semble que vous oubliez quand même que la religion chrétienne, elle est basée sur le fait que de faire de nous des hommes libres et que chacun a un chemin différent. Or, tous les exemples que vous nous donnez, c'est des gens qui sont conditionnés, qui font tous la même chose.
Je montre le danger de cela. Donc je pense que dans l'attirance djihadiste, vous avez une attirance comparable à celle qui fonctionnait chez nous pour les jeunes croisés, donc qui est en effet, ou qui a fonctionné pour nos parents et grands-parents, enfin, quand ils s'engageaient, par exemple, au péril de leur vie pour sauver la patrie ou le roi. Mais par exemple, donc, on a connu ça chez nous, hein, et c'était quand même, ça a fait quand même des milliers de gens, vous voyez, donc, qui au nom de leur valeur. Non, moins de 100 ans. 14. Non, mais 100 ans, c'est pas loin. Hein. C'est mon grand-père. Hein, donc, et moi, j'ai pas 1000 ans. Donc... 1418. Voilà. Donc, 1418, c'est tout près. Enfin, Liège, ils en ont bavé ici, quand même. Donc 1418, c'est quand même... C'était hier. Donc, il y a des monuments aux morts. On l'évoque concouramment. Allez voir le cimetière militaire. Allez voir. C'est une série de jeunes. Ils ont tous entre 18 ans et 20 ans. C'est parce que Fabien fait un commentaire que tout le monde entend.
Depuis, on a évolué et que c'est quelque chose de beaucoup plus libérateur que ce que vous en racontez.
Mais moi, je ne suis pas sûr qu'on évolue autant que vous le dites. Je pense que l'évolution a amené beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de fausse autonomie, d'individualisme, de gens qui doivent se faire tout seuls. Or, les adolescents, ils ont fortement besoin aussi d'être en groupe, d'être associés à d'autres, de faire partie de... Écoutez, peut-être que... moi, je vous parle de mon expérience, vous allez prendre une autre, peut-être très différente de la mienne. Moi, je vous parle des jeunes que je croise depuis 40 ans. Hein. Là, peut-être que je ne vois que des gens bizarres, mais il me semble quand même que les adolescents, ils aiment bien être identifiés à un groupe, appartenir à une communauté, écouter une même musique, apporter les mêmes vêtements. Ils sont soumis à une domination commerciale. On veut toujours leur faire porter les trucs à la mode, écouter la même musique, manger les mêmes choses, s'équiper chez Ikea, regarder les mêmes émissions. Donc, il y a un effet de masse permanent. Donc, et là-dedans, chacun doit être aussi autonome et indépendant. C'est donc extrêmement difficile. Là-dedans, je pense que c'est compliqué à la fois d'être soi et d'être en même temps intégré par rapport aux autres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... Il y a beaucoup moins de liberté que vous le dites. Enfin, peut-être que vous avez beaucoup de chance chez vous, avec vos enfants à vous. Hein. Pardon ? Voilà. Je pense hélas que c'est... Moi, je suis moins optimiste que vous. Je pense qu'il y a un effet de massification qui est beaucoup plus important encore qu'il y a 20 ou 30 ans. Regardez, les audimates Vous voulez qu'écouter, vraiment, quand vous voyez l'émission qui a de succès, le nombre de gens qui la regardent. Un match de foot, la moitié de la planète le regarde. Pardon ? On est d'accord ? Mais essayer de dire à un jeune qui ne pourra pas avoir son match de foot avec ses copains, il ne va pas être content. Hein. Sois toi-même, lis plutôt Sénèque ou bien Platon dans le texte. Ne pense pas qu'il va être ravi. Ce serait beaucoup mieux.
Bonsoir.
Qui parle ?
Ici.
Où ça ?
À ma droite.
Levez la main.
Votre ancienne étudiante. J'ai reçu il y a 2-3 semaines un document de la part de l'école communale que nous avons fréquente. Et suivant vos décrets de Mme Melquier, on va devoir choisir à côté du cours de religion ou à côté du cours de morale la possibilité de dispenser nos enfants de tout cours. Donc ils auront 2 heures de ce que moi j'appellerais un. Alors j'ai demandé à l'institutrice que vont faire les enfants pendant ce temps-là. Et nos enfants vont être dispatchés, enfin les enfants qui choisiraient cette option, enfin cette non-option, vont être dispatchés dans les autres classes. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'argent de toute façon pour encadrer ces enfants-là. Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis par rapport à ça.
C'est donc une question en effet terriblement politisée, parce qu'elle est évidemment incroyablement idéologique. Vous voyez, donc je pense que moi, je pense vraiment que le cours de religion a beaucoup d'importance, à condition qu'il ne soit pas catéchétique, oui, qu'il soit un cours de, qui fait appel à l'intelligence des jeunes, enfin, qui tâche de réfléchir à l'envie de croire, aux modalités que les humains ont inventées depuis toujours pour tenter de répondre à leur envie de croire. Donc, toute religion confondue, y compris même hors religion, et là-dedans, la place des religions qui nous concernent, nous, de plus près, qui sont les 3-4 religions existantes en Belgique. Comprendre au moins, oui, d'où ça vient, pourquoi c'est là, à quoi ça correspond, pourquoi ça déçoit, enfin, pourquoi ça peut entraîner des guerres, pourquoi est-ce qu'on peut, au nom de ces idéologies-là, penser qu'on peut tuer l'autre. Ça, je trouve quand même que les jeunes ont vachement besoin d'entendre. Et leur faire faire l'économie, ça, c'est une erreur, parce qu'ils seront beaucoup plus exposés à prendre pour argent comptant ce qu'ils vont entendre sur Internet. Donc il y a une vraie mission, plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, à cause de cette tendance de retour des dieux, donc vraiment, je dirais, qui est contemporaine, à leur donner les moyens de réfléchir à ce que, à quoi servent les dieux, voilà. Y compris le dieu des chrétiens. Je pense que moi, en tout cas, j'aurais 15-16 ans, j'aurais envie que l'on en parle de cela, vraiment.
Un tout grand merci pour votre exposé, d'autant plus que vous avez parlé du lieu de votre compétence comme psychiatre. Moi, j'aurais envie de vous demander comment est-ce que vous verriez au sein de l'approche pastorale, catéchique et autres, comment mieux intégrer les sciences humaines. Je trouve que l'Église a beaucoup de craintes, et vu qu'elle ne collabore pas suffisamment avec les sciences humaines, je crois que c'est en partie pour cela que son discours n'est pas reçu chez beaucoup de gens aujourd'hui, parce que nous n'avons pas suffisamment de discernement critique. Quand je vois encore ce qu'on peut dire sur le thème de la culpabilité aujourd'hui, dans certains thèmes catéchétiques ou autres, je dis que voilà. Et je trouve que bien souvent, même quand on fait appel parfois à des gens spécialisés, ils quittent vite le lieu pour reprendre un lieu de chrétien. Je trouve qu'il serait grand temps qu'une Église ouvre des lieux d'un débat croisé entre les sciences humaines.
Parlez pas trop de croisé, hein, c'est dangereux. Vous savez, écoutez, moi je partage votre point de vue à 100%, bien évidemment. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir participer à ça. Je pense en effet que là l'Église a quand même tardé, parce qu'il y avait au moins 20 ou 30 ans qu'il y avait des gens fantastiques, vous voyez, André Wénin, pour citer quand même des gens remarquables, qui, vous voyez, je dirais Marie Belmarie, sont des gens qui ont apporté un souffle d'olto aussi, vraiment, je dirais, à une façon de revisiter les grands classiques, enfin, ou les grands fondamentaux du monde chrétien, avec en effet une lecture beaucoup plus subtile, sophistiquée, universalisante et intelligente des choses, qui vraiment parle beaucoup plus à tous ceux qui ont envie de comprendre. Si vous balancez des vérités qu'on ne peut même pas critiquer, sans montrer pourquoi est-ce qu'on balance, on peut expliquer pourquoi on balance des vérités. Hein, donc vraiment, c'est quand même, et ça, toute l'histoire de l'Église est archi intéressante. Donc vraiment, pourquoi est-ce qu'on a voulu rendre le pape infaillible, enfin, d'où est venue l'idée du péché, qui a une histoire, quoi. Très très repérable quand même dans l'histoire de la pensée, bon, la culpabilité et l'histoire aussi, donc les sciences humaines par rapport à ça ont un éclairage formidablement intéressant, parce qu'il y a la culpabilité aussi chez les autres, même qui ne sont pas du tout éduqués Donc, et alors surtout, montrer qu'en effet, l'obsession morale du discours ecclésial est une erreur majeure. Vraiment, je pense que l'Évangile n'est pas d'abord une morale. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. Et donc, toujours ramener les choses à une lecture morale, je pense que ceux qui font ça se trompent de siècle. Vraiment.
À vous entendre, j'aimerais bien que vous puissiez un peu dessiner, imaginer ce que serait une communauté chrétienne. Parce que c'est finalement dans la communauté chrétienne, le plus souvent c'est sous la forme de paroisse, qu'on devrait avoir ce débat et cet apport.
Tout à fait.
Si bien que pour que les paroisses ne soient pas simples reproductions d'un modèle qui s'essouffle. Vous l'avez dit, les églises se vivent, etc. Parce que on ne peut pas non plus imaginer que le discours des responsables chrétiens soit reçu dans des églises qui se vivent. Où se retrouveront alors les chrétiens qui feront ce travail? Pas uniquement les responsables, pas. Où sera ce travail à la base? Comment le voyez-vous? Comment serait une communauté chrétienne vivante qui ne soit pas de croisée?
Je pense. Elle est clairement, je pense, à beaucoup d'égards, à réinventer. C'est-à-dire que je pense qu'on a des modèles trop marqués historiquement parlant, donc qui étaient extrêmement pyramidaux. Donc, ça, je pense que cette page-là est tournée. Donc vraiment, on est quand même. Et c'est en ça qu'on retrouve beaucoup plus peut-être l'inspiration des premiers chrétiens. Donc je pense, là, c'est quand même assez intéressant ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut retrouver quand même beaucoup plus des modalités horizontales d'échange, c'est-à-dire de partage, où des gens pourraient se retrouver avec leurs questionnements, avec leurs doutes, avec leurs interrogations, avec leurs questions existentielles, vraiment, et dans un partage avec peut-être certains plus éclairés que d'autres, donc, mais où chacun peut amener sa part de lumière, enfin, ou d'obscurité. Et ce partage serait quand même, je crois, vraiment archi intéressant. Les gens ont terriblement besoin de cela, vraiment, de santé solidaire. On est beaucoup trop isolés. Chacun enfermé chez soi, derrière son écran, dans une solitude effrayante. Quand on peut pas, à un moment donné, se retrouver avec d'autres gens, pour pouvoir compter un peu sur eux, pour pouvoir partager ce que l'on vit, les questions que l'on traverse, et y compris à travers des rituels. Je pense que, donc, ils sont clairement inventés, hein, je pense, mais quand même, comme la communauté qui se retrouve et qui partage un moment ensemble, vraiment, c'est quelque chose dont les gens ont terriblement besoin. Maintenant, les gens ne se retrouvent plus que sur des marchés le dimanche pour acheter des pièces de brocante et manger des frites. Mais c'est pas suffisant. Ça les rend pas assez heureux. Ils consomment, et ils s'anesthésient, et puis ils se mettent derrière un écran télé, et ça donne beaucoup trop de solitude. Alors, les jeunes cherchent, eux, des modalités contemporaines d'adolescents, donc avec le chant, la musique, de la danse. Oui, donc, c'est vrai que le chant, la musique et la danse sont des modalités de rencontre, pas uniquement pour la drague érotique, pour le plaisir d'être ensemble. Oui, il y a des concerts de jeunes qui sont comme des espèces de grands messes. Ils regardent quelqu'un qui chante vraiment, et ils sont émus jusqu'aux larmes par la voix qu'ils entendent. Vous avez vu The Voice, c'est un phénomène archi intéressant. Hein. Pourquoi est-ce que certains, à un moment donné, cartonnent et pas d'autres? On peut faire là-dessus une thèse complètement sociologique. Mais c'est un phénomène où les gens se retrouvent derrière une émotion qu'une voix humaine leur fait éprouver. Donc le besoin de la communauté, du partage et de se trouver, du vivre ensemble est majeur. Alors je trouve que c'est ça qu'il faudrait partir de là clairement. Et en partant des besoins des uns et des autres, en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut essayer, dans le partage, d'élaborer. Et alors c'est clair qu'il faudrait réinventer ou revisiter les rituels existants, ou repenser les mythes. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à ça. Donc, moi j'ai beaucoup réfléchi à la question de la prière, une question archi compliquée. Maintenant, il y a un truc qui cartonne dans le champ psy qui s'appelle la pleine conscience. Voilà, je cherchais le mot. Vous avez vu, c'est incroyable. Donc, ce truc a à peine 4-5 ans, et vous avez des milliers de gens qui apprennent, et ils sont tout contents de ça. Certains disent, donc moi j'ai jamais essayé, donc c'est un processus, je dirais, de méditation. À un moment donné, c'est comme pour eux une ouverture à la prière. Très intéressant quand même pour ceux qui aimeraient repenser la prière autrement que sur un mode infantile, on pense à Dieu le Père qui va venir nous apporter des bonbons. C'est quand même un peu débile, vraiment. Mais l'idée qu'on peut faire éprouver aux gens dans des exercices spirituels, mais même au départ laïcs qui ne doivent pas être chrétiens, le pouvoir de la pensée et de la méditation, de pouvoir intérioriser les choses et de pouvoir passer à les partager, c'est quand même une ouverture formidable dont on a terriblement besoin. Et donc, alors, sur la prière, je me disais au fond. Est-ce que je prie parfois ou pas? Parce que quand on est une trinité, on ne sait pas très bien à qui il faut prier. On s'est dit, merde, il y a trop de monde là-haut, on ne sait plus à qui il faut. Mais moi, il m'est venu, et je pense que beaucoup de gens, même qui ne sont pas chrétiens du tout, comprennent cela. Moi, il me vient toujours que Je me sens dans un état de prière quand je suis dans un moment de gratitude. Oui, donc d'envie de remercier quelque chose qui est plus grand que moi, des moments de joie qui animent ma vie. Et ça, je pense que ça parle beaucoup aux jeunes. Oui, donc, et on n'est pas dans la culpabilité. Hein. Oui, donc on est dans quelque chose qui est proche de l'amour, donc qui est vraiment... Pourquoi c'est quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, tu sens que tu dis quelque chose qui est fondamental. Tous les jeunes comprennent pas la première. Or, c'est une phrase d'une stupidité confondante. Mais elle est déterminante dans le lien. Donc elle est sacralisante. Donc elle est beaucoup plus puissante que de faire l'amour. Et là, on découvre dans, la force des mots. Vous voyez, donc le verbe qui s'est fait chair. Enfin, comment les mots humanisants sont une bonne façon de pouvoir s'initier petit à petit à une idée d'une transcendance. Plus ils sont sophistiqués, et plus ils sont paradoxaux et étonnants. Alors, ça, je dirais, les psaumes sont d'une richesse hallucinante. Il y en a qui sont violents, il y en a qui sont effrayants. Mais quand on raconte comment les gens ont fait les psaumes, ça parle à tout le monde. Vous voyez, donc, on a une richesse culturelle qu'on doit revisiter en la dépoussiérant, en la sortant de son côté un peu coincé, vraiment un peu vide et répétitif, comme ça, vraiment... automatisme de répétition, parce que là, on est dans de la mort, et on peut, en revisitant, redonner un nouveau souffle humanisant pour tout le monde. Et à ça, je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment évangélique. Et en communauté. Oui ?
Dans notre jeunesse, nous avons été fort marqués par l'importance de l'idéal. On nous a surimé cela si fréquemment et d'une manière régulièrement intelligente, au point qu'on y a mordu à pleines dents. Le scoutisme, le patron, l'influence des aumôniers extraordinaires. Dimanche, dans quelques jours, je vais animer une eucharistie de profession de foi et je suis venu ce soir en me disant cela pourra alimenter mon homélie, je vais leur parler de l'importance d'un idéal, car on ne parle pratiquement plus aujourd'hui de l'idéal. Si vous étiez à ma place dimanche, je pourrais vous inviter. Si vous voulez, venez faire cette homélie et le temps est court. 8 minutes. Quels sont les points sur lesquels, les clous sur lesquels vous taperiez fortement?
Vous avez des trucs, là, vraiment le. Hein. Je vais vous envoyer une note d'honoraire après, alors comment. C'est très compliqué de parler de ça, je dirais, en 8 minutes. Je pense que le terme idéal n'est pas le bon pour commencer. Donc, sauf si vous prenez Souchon. Donc, full sentimental, on a sauf d'idéal. Donc, vraiment, cette chanson qu'ils connaissent tous. Donc, parce que c'est quand même étrange que cette chanson, on doit avoir 20 ans. Enfin, comment Souchon avait pensé à la soif d'idéal. Donc, parce que ça, je pense qu'elle en parle plus que la quête. Donc, qu'est-ce que c'est que la soif d'idéal? Je pense que si vous leur dites, je crois ça vraiment. Une vie réussie, c'est un rêve d'adolescent accompli à l'âge adulte. Bon, donc, c'est quoi un rêve d'adolescent? Alors, on peut leur dire, si chacun de vous se met dans sa tête et se dit, de quoi je rêve vraiment pour moi? Qu'est-ce qui ferait que pour moi, si ce rêve je le réalise, je pourrais me dire, ma vie est réussie? On a parlé d'une vie réussie, c'est quand même une question compliquée, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, pardon. Et vous parlez du rêve, donc qui est quand même... l'idéal est quelque chose fait content, c'est quelque chose dont on peut rêver. Enfin, c'est pas toujours sûr qu'on y arrive, enfin, ou alors on est mort. Mais ça, c'est un mot qui est dégagé d'un poids surmoïque, enfin, vous voyez, d'un poids moralisant. Donc, et alors on peut se dire, le rêve d'un adolescent, donc c'est quand même une idée qui se fait au cœur de lui-même de ce vers quoi il aimerait tendre, qu'il aimerait un jour réaliser, qui pourrait donner à sa vie une couleur, enfin, ou, qui fait qu'il pourrait se dire, le jour où il meurt, à 50 ans, 60 ans, 80 ans, je pense que ma vie était réussie. parce que j'ai accompli ce qui me semblait ce pourquoi j'étais là, enfin, ce à quoi j'étais appelé. Or, c'est des questions qui nous habitent énormément tous. Oui. Alors, en même temps, vous ne leur dites pas, c'est ça l'idéal qu'il faut tous atteindre. Donc, vous leur montrez l'importance de tendre vers un idéal sans le définir. Alors, après ça, on peut réfléchir aux modalités d'idéal. Donc, je pense quand même que, vous voyez, quand on voit Daesh, oui, c'est l'idée de se sacrifier. Donc, c'est quand même une idée éminemment, c'est dangereux, ça, hein, juvénile, qui est de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi qui a tellement d'importance que ce serait ce pour quoi je serais prêt à donner ma vie? C'est ça, sacrifier. Hein. Si vous leur dites, vous qui êtes là, pourquoi seriez-vous prêt à donner votre vie, hein? Vous commencez par le détendre en disant, ce ne sera plus pour la Wallonie, je pense. J'espère. Ça ne fera pas rire aux Flandres. Hein, donc ça ne fera rire que si vous donnez, si vous avez une troupe flamande, ils ne vont pas rire avec ça, parce qu'eux, ils seront prêts à mourir pour la Flandre. Donc la Wallonie, ça, on est prêt. Donc, mourir pour Philippe II, parce que ça, vous n'aurez plus beaucoup de monde non plus. Pour Élodie Rupeau non plus. Donc on chercherait en disant, vous savez, durant des siècles, les gens sont morts pour ça. Donc vraiment, ils allaient au champ de bataille, ils mouraient terrifiés en appelant leur mère en agonisant, mais ils pensaient qu'en effet, leur vie avait moins d'importance que le combat qui était le leur. Hein. Ça va leur parler quand même, parce qu'ils entendent quand même bien qu'il y a des kamikazes, qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, au nom de leur foi, sont prêts à dépasser leur peur de mourir en se faisant éclater par une bombe et en tuant le plus d'infidèles possible. Ça, c'est pas non plus une très bonne idée. Mais ça va leur parler. Ça, ils connaissent, ils en ont tous les soirs. Ils entendent ça à la télé. Et si vous leur dites, si chacun de vous réfléchit à ça, dans sa tête et dans son cœur, en disant, pourquoi serais-je à donner ma vie? Probablement que chacun de vous pourra penser à un moment donné, je serais prêt à donner ma vie pour quelqu'un que j'aime. Alors que vous n'avez pas la foi, nécessairement. Et que vous ne pensez pas que Dieu est amour. Et vous pensez que l'amour de l'autre peut être plus important que votre vie propre. Et ça, c'est un idéal magnifique. Et alors là, on peut pas. Vous voyez, là, je ne sais pas si j'ai parlé 8 minutes, mais je pense quand même que vous allez en toucher quelques-uns.
Amen. Voilà, je pense que ça peut servir de bonne conclusion pour l'ensemble de cet exposé. Merci encore, Philippe. Juste pour vous signaler que dans la salle derrière l'église, il y a deux livres, les deux derniers de Philippe. Van Merwey, Dieu est-il inconscient, et ainsi soit-il, justement, qui parle de l'adolescent, donc, voilà, si vous voulez, avant un prochain livre qui sort justement début juin.
Et à nouveau, qui va sortir début juin, alors qui est proche de celui où Dieu est-il inconscient, parce que je pense que Dieu est inconscient, dans le sens qu'il est dans l'inconscient, et puis que si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il se montre, elle est tellement mal, il est quand même un peu inconscient. Mais mon nouveau livre prend comme thème, de toute façon, donc, clairement la quête idéale, donc son titre c'est « Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ?» Donc, et vous allez voir, c'est un jeune qui fait le funambule sur une bande d'autres jeunes qui regardent en disant est-ce qu'il va tomber ? Et le sous-titre c'est « L'adolescence et la soif d'idéal ». Et j'essaie de réfléchir à tout ça. Je ne m'attendais pas, donc c'est une commande que je devrais tous les jours écrire 4-5 pages de plus. Je regarde un JT et j'ai tout de suite de nouveau un paragraphe en plus. Tellement c'est une question cruciale dans notre monde contemporain, pour nous adultes et pour tous les jeunes desquels on s'occupe. J'espère que je vous ai intéressé. Merci en tout cas. Merci.
Qui marche sur un fil en quête d'équilibre. C'est une bonne conclusion pour notre cycle de conférences du bicentenaire d'Oslo, puisque c'est l'icône qu'on connaît bien, le JG, ce jeune sur son fil. Alors voilà, pour terminer, on vous invite à prendre un verre éventuellement, le bar est ouvert. N'hésitez pas à participer aux frais de cette soirée avec les deux familles qui sont à la sortie. Et vraiment merci Philippe pour cet exposé riche. Bonne soirée.